Pour essayer d'identifier, ça, si vous voulez, dans notre expérience humaine, je ne veux pas dire intériorisée, mais un peu identifiée, illustrée, c'est le fait que plus on est sadique, et plus on ressent les scrupules. Ah, ah, de Khoutassar. Vous comprenez ce que je dis?
Je veux être sadique.
Non. Ça, je comprends pas très bien ce que je veux dire. Et le fait de ressentir les scrupules de façon plus fine, c'est ça le signe qu'on est sadique. Plus on est évolué, plus on est vulnérable. Donc plus on est vulnérable, c'est que plus évolué on est. On se fait parallèle. Plus on est capable d'être kadosh, plus on est capable d'être tamé. Mais ne peut être tamé que celui qui est kadosh. Celui qui n'est pas kadosh, il n'y a pas de touma pour lui. C'est la manière dont la conscience prend conscience d'une culpabilité. Alors, il faut faire attention, parce que c'est... Ce soir, je vous parle même des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a une maladie qui s'appelle la scrupulite. il faut faire attention à ce genre de chita. Et les scrupules. Finalement, on tombe malade. Vous êtes de façon saine, naturelle. Une conscience... qui ressent de façon plus fine le scrupule par rapport à la valeur, par rapport à la conduite, c'est le signe que c'est la conscience sadique. Il y a des gens qui sont malheureux par trop de conscience morale. Ils mettent à profit la conscience morale qui n'est pas au même niveau que leur capacité d'être. Ils ont, si vous voulez, une conscience morale d'un degré supérieur à leur être réel. Il y a des gens qui ont des névroses par surcroît de moralité. C'est la scrupulite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou à quoi je fais pas allusion. Mais enfin, je vais donner un... Chacun doit être là où il est. Imaginez un être de cire qui se prend une tête de flamme. Ça fait un cierge et ça brûle, et ça fond. C'est une image que j'ai vue quelque part. Et en plus... Et alors, je voudrais vous donner un exemple qu'il y a dans la Torah. Il y a dans la Torah une disposition que nous ne pouvons pas identifier, je vais vous en parler, et sinon, on peut identifier que par façon de parler, mais la Gemara dit très exactement que ces choses dont on parle là, ça n'arrivera qu'au temps du Mashiach. C'est une retard de Mashiachta. La Torah parle de la lèpre du corps, de la lèpre des vêtements, elle parle aussi de la lèpre des maisons. Et donc, dans ce cas, s'il y a une tache de lèpre sur un mur, il faut détruire le mur. Et je vous dis, on peut identifier, nous, que par façon de parler, quand il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, du salpêtre sur les murs, on dit il y a la lèpre des murs, c'est pas la lèpre, c'est du salpêtre, rien à voir. Bon, mais alors la disposition est que ce que je voulais citer, c'est que la Torah enseigne cette loi, Veaya, Pitavu, Elaret, il arrivera quand vous rentrez dans le pays et qu'il y aura la lèpre sur les maisons, vous détruirez les maisons. Bon, alors le Midrash, que Sitrachi d'ailleurs dit, c'est Besorah Tova. C'est une bonne nouvelle que la Torah nous annonce, qu'il y aura de la lèpre sur les maisons. Et où est cette bonne nouvelle? Maintenant, c'est Shpikoya. Parce que chaque fois qu'il y avait Aya, il arrivera que c'est de Sora Tova, c'est Simcha. Et où est la joie qu'il a de la lèpre sur les maisons? Le Midrash raconte une histoire. Mais voilà. Étant donné que quand il y a de la lèpre, il faut détruire la maison, si jamais un trésor est caché dans le mur, grâce à la lèpre, vous allez trouver le trésor. Et ils disent comme ça, quand les habitants du pays ont attendu, les juifs arrivent, ils ont enterré leur trésor. Alors il y aura de la lèpre, jusqu'à ce qu'on trouve le trésor. Et l'idée que le commentaire que je vous cite a mis en évidence, c'est que précisément, n'apparaît la lèpre que là où il y a un trésor. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, plus il y a vulnérabilité, plus c'est l'indice qu'il y a... une identité précieuse. Il n'y a que les identités précieuses qui sont atteintes de ces troubles. Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas provoquer la lèpre, parce que peut-être qu'il n'y a pas de corps. Il y a un piège qui est indiqué par un autre prat de la halakha, c'est que il faut voir cette tache de lèpre pour la diagnostiquer à la lumière d'une fenêtre, à la lumière du jour, pas à la lumière d'une flamme artificielle, à la lumière de la fenêtre. Et la halakha, selon les chiffres, est précise que s'il n'y a pas le Kohen doit venir, il faut que le Kohen, spécialiste, il diagnostique, pas n'importe qui, le Kohen va diagnostiquer est-ce que c'est vraiment lèpre ou pas, donc on détruit la maison. Et si Dieu veut, on trouve un trésor. Mais la halakha précise que le Kohen n'a pas le droit d'ouvrir une fenêtre pour vérifier si c'est la lèpre ou pas. S'il ne voit pas assez clair avec la fenêtre qu'il y a, il ne faut pas chercher plus. Vous y êtes ? Ça veut dire qu'il ne faut pas mener la scopulite trop loin. Parce que la Torah a déjà prévu ça. On n'a pas le droit d'ouvrir une fenêtre si on ne voit pas suffisamment clair. En général, on ne voit pas clair. Alors, on n'ouvrez pas de fenêtre. Bien. Exactement. C'est tout à fait ça. Et que on respecte que les c'était souvent brisonnant. On ne va pas trop loin. Regarde bien la Mishnah dans Tsachi. Quand on fait petit 4 à mètres, je te l'explique, il y a aussi une petit 4 à mètres intérieure. C'est la chèche bonne effet. Ça s'appelle petit 4 à mètres. Une petit 4 à mètres, c'est le hauteur de Metzach. Metzach, ça veut dire le front, ça veut dire l'orgueil. Alors, il faut faire petit 4 à mètres avant Pessah. Et seulement, il ne faut pas aller trop loin. On descend dans la cave, mais les deux premières rangées des tonneaux, ça va marcher. Ouais, ouais, peut-être. Remarquez, il y a une marche au pied dans le métier de voiture. Il y a toujours un qui est l'équipe. Donc apprends qu'il ne faut pas être marmé. Non, je vais simplement vous signaler.
Je suis passé par là.
Comment ?
Je suis passé par là.
Oui. Je voulais simplement vous signaler cela. Sauf que, je ne sais pas à propos de quoi je vous ai cité ça. Oui, mais à propos de vous, où est-ce qu'on est ? Ah, Kerkuta Sahara, ok ? C'est-à-dire que le Mishpat, bien que le Mishpat, c'est pas ce caractère terrible de la Midat Hadin, que c'est din rafé, un din gentil, avec Rachamim. Ici, là, il a la disposition des Midot. La Midat Hadin est à gauche. Et finalement, Malchut est en dessous de la Midat Rachamim, qui a déjà fait synthèse avec Midat Hesed. Oui. Mais malgré tout, Malchut, c'est le Hidgalut de la Midat Hadin. Au niveau de la réalité, c'est din rafé, mais c'est din. Le schéma de la mise en malchut, c'est le schéma de Adonai, Allah Zalet Mouniot. Et dans Adonai, il y a din. Din. Mais c'est din rafé. Et par conséquent, dans tous les cas, on serait tenté de penser par le raisonnement que c'est le Mishpat qui est le fondement du monde. Mais le Maharal explique que le Mishpat est terrible. Bien que maintenant que Mishpat, c'est quand même terrible. Il va nous expliquer parce qu'après le Mishpat, il y a des tzadikim et l'Ershaïm. Or, le monde tient aussi pour l'Ershaïm. Donc, ce n'est pas le Mishpat qui est le fondement du monde. Puisque si c'était le Mishpat qui était le fondement du monde, il n'y aurait pas d'Ershaïm dans le monde. Or, il y a. Donc, c'est une autre valeur. C'est clair ? Et mais pas les gambris dans la valeur. C'est le Mishpat, mais aidé par le Chesed. Vous voyez ce que le Midrash voulait dire ? Là, je vous ai expliqué une fois comment les chassidim expliquent qu'il est nécessaire qu'il y ait des Rechaïm dans le monde. Malheureusement, il y en a trop, mais enfin, un petit peu quand même. Qui se souvient de cette explication de chassidim ? C'est beau.
Pour
Tzibourg, c'est Tzadikim, Benonim, Urshaïm. Ça veut dire Tzibourg. Un Tzibourg, il n'y a pas d'Urshaïm, on s'ennuie. Je vais un peu s'appeler, mais pas beaucoup. Bien sûr, c'est du profond, ça, mon frère. C'est du jeune.
Une famille sans enfants, ça, c'est ce que je veux
dire. Et oui, dans la famille type, il y a Ehad. Le Chahine exagère. Bon, Alors donc voilà que la raison pour laquelle le Mishpat ne peut pas être le fondement du monde, Raf, Intomar, qui vous offre le Mishpat, sauf et char vous, mais à Choliot, c'est l'œil à moi de Midat Mishpat. Et même si tu dis, mais l'homme peut être justifié par le jugement, alors la réponse c'est que, en fin de compte, il peut arriver aussi qu'il ne soit pas justifié, mais l'œil à moi de Midat Mishpat. Mais ici, le Maharal est vraiment très précis. Son optimisme est absolu et authentique. Et il parle pour quiconque qui a vécu dans le monde. Véhi Tomar, qui vous offrait le Mishpat. En fin de compte, si le Mishpat est fait jusqu'au bout, on pourra justifier. Puisque Dieu l'a créé, c'est qu'il y a en lui de quoi justifier. N'importe qui. Alors, le Maharal dit non, il y a cependant cette éventualité que le Yachon l'a amour de Midat Mishpat. Harei Yeshkan, les Olam Hazé. Et donc, nous voyons bien qu'il y a pour ce monde-ci, et Nyan Seoum Mitmotet, que Mokise, Sheno Omed Beshavé, Sheno Omed Mekuyam, Rakunote Ana Veana. Cette expression de Ana Veana, vous l'avez retrouvée?
Moshe.
Dans la Torah.
Moshe.
Hein?
Moshe.
Non, Ana Veana.
Non,
c'est Shenko. Oui,
Shenko.
Dans le procès de Joseph. C'est Rouven. Ouais. Car qui est la mazé, ainsi pour ce monde-ci, qui bénisat amishpat, ou mitmotet, si c'était uniquement la mesure du jugement, oui, vaï bimesh fotashoftim, sotso vaï raabare. Anave ana, qui est cherché yékayam, et cherché l'eau yékayam. C'est-à-dire, si on prend la vertu du jugement avec tout ce qu'elle a de positif comme fondement du monde, alors il y a éventualité que ça puisse réussir ou que. Ça puisse échouer. Mais la reine, Amrou l'Etan, Alma Olam Omen. Alma Olam Omen Mekuyam. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a posé la question, mais sur quoi vraiment le monde repose? Bien sûr, il repose sur trois fondements. Gemin Prasadim, Torah Va'avoda. Mais avec ces trois fondements-là, il n'est que Omen et pas Mekuyam. Mais pour qu'il soit Omen Mekuyam, il faut ajouter Chesed à Mishpat. C'est clair? Alors je pense que on peut. Bien, alors nous reprenons maintenant le commentaire de la Mishnah du 5e chapitre. Que vous allez prendre donc à la page 242, à la fin de la citation que nous avons lue dans la Mishnah précédente. Alors je reprends le sujet, la description du sujet. La notion précédente, c'est que Imloch et Yuba Olam Gomle Hasadim Ashpi Mituvam, Loya Raoui Shi Hashem Itvar Borea Olam, Mashpi Arlo Mashet Barich El Aolam. Et d'abord Zenit Baer, le Mahala, le Perek Moshe Kibel Torah, et fait Al-Kosha Dvarim Aolam Omen. C'est ce que nous avons étudié donc jusqu'à présent. Alors on enchaîne. Ça veut dire, s'il n'y a pas de Chesed en bas, le Chesed ne vient pas d'en haut. Et l'importance du reste est considérable, puisque le monde repose sur le reste. Vous tenez, qui a chez nous Mashpiar la Olam, d'abord chez Waikar, et par le fait que Dieu déverse au monde, d'abord chez Waikar, Hiyuto, cette chose qui est l'essentiel de ce qui fait vivre l'homme, Hiyuto chez la dame, Kemo Alechem, c'est-à-dire le pain, comme le pain, chez Hiyuto chez la dame, qui est ce qui fait vivre l'homme, et là je vous renvoie aux analyses précédentes. Mais Hacheni, chez Oumashpiar la Olam d'abord, chez Imlo Ayaba Olam Aya Olam Chaser, mais il y a un deuxième niveau aussi, premièrement le niveau de ce qui est essentiel, le Lechem. Un deuxième niveau, que si nous ne recevions pas ce mazon au second degré de Dieu, le Olam manquerait quelque chose, après il serait Chaser, il serait vide de quelque chose. Afalgar, chez Efchar et Itkaïm Adam Zulato, il s'agit de valeurs qu'on pourrait vivre sans. Mais que si on ne les a pas, ça manque. Vous voyez le deuxième niveau? Le premier niveau, si on n'a pas, on ne vit pas. Ce qui fait vraiment le goût de la vie. Le deuxième niveau, c'est qu'on pourrait vivre sans. Mais si on n'a pas, ça manque. Ce n'est pas du tout le superflu. Le superflu, c'est encore un autre niveau. mais je cherche le terme. C'est pas l'essentiel, mais... C'est pas accessoire, puisque ça manque si on l'a pas. L'accessoire ne manque pas. Bon, j'ai compris l'idée, au moins, en tout cas, on pourrait chercher ce terme-là.
C'est complémentaire ?
Non, c'est pas l'habitude. C'est quelque chose qui fait aussi le prix de la vie. Sans cela, on pourrait vivre quand même, mais c'est pas une vie vraiment. Tandis que le premier niveau, si on n'a pas, on vit pas. C'est pas un complément. Déjà, oui, c'est un peu dans l'ordre de la bracha, mais tous les niveaux sont bracha. Le lechem, c'est déjà bracha. Bon, l'essentiel, c'est qu'on ait compris l'idée. C'est-à-dire, il y a un premier niveau de mazon, qui est le lechem mamash, si on n'a pas, il n'y a pas de kiyum. Mais il y a un deuxième niveau. On pourrait vivre sans ça.
Vous pouvez donner l'exemple.
Je cherche. On pourrait vivre sans ça. C'est pas l'utile. On pourrait vivre sans ça. Mais si on n'a pas, ça manque. C'est une vie. C'est une vie hafera. Non, ça va avec le... Ok, je vais ouvrir, tu crois?
Je ne peux pas.
Vitamine, étymologiquement, c'est riz ou
pas? C'est
pas possible. Non, ça c'est pas. Et la moutarde, vous pouvez manger sans moutarde, vous?
Que c'est la production de pastel?
Hein?
Pastel?
C'est le dessert. Tout sa faute. Et tu peux lui rester sans tout sa faute. Alors, je voulais ouvrir une parenthèse. En culture générale, cette analyse existe, ça y est, cette analyse existe dans ce qu'on appelle la morale d'Épicure, d'une autre manière. Peut-être que ça nous permettra d'identifier mieux en français. Vous savez que la morale d'Épicure, originellement, est une morale ascétique. C'est une morale qui n'est pas du tout la morale qu'on appelle épicurienne dans le sens vulgaire. Ça serait bien une toute autre école qu'Épicure, l'école cyrénaïque qui n'avait rien à voir. Enfin, l'erreur de vocabulaire, c'est qu'on appelle épicurien des gens qui vivent à la manière vulgaire du sens épicurien, parce que ça s'est dégradé comme ça. Je donne par exemple un exemple. Quand je vivais en France, il y avait une marque de camembert qui s'appelait Le Moine. On voyait un brave moine joufflu manger un camembert. Alors que, étymologiquement, un moine, c'est un ascète. Mais sauf, il mange du camembert. C'est ce qui est arrivé, disons, aux épicuriens. Et, merci beaucoup. C'est très de ma mâche. Ça veut dire. Et alors, si on fait du battage, c'est... Alors, voilà ce que je voulais expliquer. Cette morale ascétique, elle est rejetée par le Talmud parce qu'elle fait équivaloir la vertu au plaisir. Bien sûr, il s'agit de plaisirs, comme on va y arriver très rapidement, il s'agit de plaisirs nobles. Mais finalement, faire équivaloir la vertu au plaisir, même les plaisirs nobles, c'est ça, apicurien. Et en particulier dans les milieux juifs, en milieu juif, le danger le plus grand de l'apicurien étymologiquement, être épicurien, hérétique, c'est prendre l'étude de la Torah comme le summum du plaisir et étudier la Torah pour le plaisir intellectuel. C'est ça, apikouros. Il faut être un grand anichacham pour être capable d'être apikouros. Mais ne dites pas apikouros à n'importe qui. Et en tout cas, c'est effectivement le sens de la raison pour laquelle le Talmud a condamné l'épicurisme. Par exemple, en milieu juif, on appelle apikouros chez l'Israël. Ça veut dire celui pour qui le plaisir suprême, c'est d'étudier la Torah. Mais c'est un plaisir. Ça, c'est la plus grande hérésie. Simcha. Là, il s'agit de Hana.
Toutes les chivotes.
Presque. Tu m'as fait dire une bêtise.
Bon.
J'attendais
ça.
Mais je pensais pas le dire. C'est toi qui l'as dit. Non, mais je veux dire, bon. Mitor, c'est l'olishma, valishma. Il commence d'abord par étudier pour le plaisir, pour la jouissance intellectuelle que ça donne. Mais il faut savoir que c'est apicursiche. On n'étudie pas la Torah pour avoir du plaisir. Comme on fait des échecs, ou des mots croisés, ou comme on joue au bridge. Et vous avez énormément de gens
sur les fonds de la race.
Et vous avez, surtout sur les Lituaniens, ouais. C'est la Chidoritouakie. Bon, mais...
C'est rigolo, c'est vrai.
Mais c'est comme ça, les Argonais nous arabes. Mais il y avait beaucoup de gens pour qui maîtrisent les Ramartines de façon considérable. Hein. Parce que, qu'est-ce que c'est la jouissance de la vie? C'est de rentrer dans un Tosfot et d'en sortir. Mais croire en Dieu, ils ne croient pas. Et ma mâche, c'est comme ça. Mais plus que, par exemple, au niveau de la Bitachon.
Pour ça, j'ai été obligé de faire Shahar en Bitachon.
Ah bon, Bitachon et Mouna. Toi, tu nous racontes ta vie ce soir.
Pourquoi pas, si tu sais tout faire.
C'est très pratique. Non, mais c'est vrai, il y a. Vous avez énormément de gens. Énormément, enfin beaucoup. Qui. On peut dire, ne sont pas des ma'aminim du tout. S'ils sont Shomrei Mitzvot, c'est Mitzvot Anashim Melmada, c'est-à-dire de la mécanique. Et puis, je vous raconte une histoire. De ces gens-là, on raconte, mais c'est vrai. Et que le jour le plus insupportable pour eux, c'est le jour de Kippour. Parce qu'on fait la prière toute la journée. Alors ils sont sympas. Et quand est-ce qu'on va ouvrir la Gemara? Mais c'est réel. Il y a des gens comme ça. On raconte dans ces milieux que dans une de ces yeshivot intellectualistes, disons, il y avait des chassidim qui venaient étudier parce qu'il n'y avait pas de yeshivot possible pour eux dans la ville. Alors il fallait les attendre qu'ils finissent la prière pour commencer à étudier. Alors les autres s'énervaient. Ils disaient, jusqu'à quand ces goyim vont arrêter de parler à leur bon Dieu, qu'on ouvre la Gemara. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors, il faut pas exagérer. Mais le problème est comme ça. Il y a des gens, méfiez-vous de ces gens-là. Ça, c'est les shlichim du Satan. Pour qui étudier la Torah, la Gemara, ça l'étude de la Torah, c'est la plus grande puissance intellectuelle qu'ils ont. Et c'est vrai, c'est une grande puissance intellectuelle. Mais il n'y a que ça, si ce n'est pas l'ishma, si ce n'est pas pour savoir ce que veut la Torah et le faire, c'est ça la puissance. Vous dites ? Bon, je pense que c'est simple à comprendre. Hein? Et alors, en tout cas, c'est surtout jamais à eux qu'il faut demander le deal. Parce que finalement, ils vous donnent un deal tellement compliqué que c'est à Picoros. Alors, on revient au problème. De quoi je parlais jusqu'à présent? Ah oui, de la morale de l'écriture. Alors, donc la morale de l'écriture est disqualifiée. Tu dois sortir?
Non, non.
Je veux dire que, alors que les Talmuds disent d'une façon générale, les rabbins du Talmud avaient beaucoup de respect pour les stoïciens, ils ne pouvaient pas supporter les épicuriens. Voilà, c'est pourquoi la catégorie philosophe hérétique, ça se dit en langage talmudique, apicoros, épicurien. Voilà. Tandis que les gens de la stoa, comme on dit, les stoïciens, je n'étais pas d'accord avec eux, mais ils les respectaient. Il y a une dignité chez les stoïciens, d'une toute autre nature que chez les épicuriens. Alors que dans la théologie chrétienne, c'est l'inverse. Le christianisme ne supporte pas les stoïciens, et il a fait copain-copain avec les épicuriens. Ça, c'est une autre histoire.
Quand le Moshgiach n'était pas d'accord avec moi pour cette explication, tu n'as plus qu'on me
souvient. Quel Moshgiach?
Un Moshgiach.
Plus fort que tout le monde t'entend.
Mais toi, t'as mis Chacham de la Picorus.
Badou, Badaï. Mais ce que tu appelles Tamis Chacham, c'est pas ça que tu crois qu'il a cru? Non. Tamis Chacham, c'est Batka, c'est celui qui étudie le chemin. La Gemara explique. Tamis, c'est un Tocho Kevaro et non Tamis Chacham. Tamis, c'est un Tocho Kevaro et non Tamis Chacham. C'est pas soutenu. Comment? Et Mouna Bitachon, le Mahasav. Et Yesh Dibour, c'est Mahasim. Je pense que t'as compris la réponse.
Oui,
et non, Mikra Tamin Chacham. Tu peux l'appeler Maskil Venavod, tout ce que tu veux, mais c'est pas Tamin Chacham. Tamin Chacham, c'est celui qui étudie l'Ishma. En général, on les appelle Baal Fechel. Et on se méfie. Mais, où est-ce que nous étions? Oui. Alors donc, cette morale épicurienne, elle est disqualifiée par le Talmud parce qu'elle fait. Elle identifie la vertu et le plaisir. Voilà le raisonnement. qu'est-ce que c'est l'objet de la morale? C'est savoir ce qu'est le bien. Or, le bien, c'est le bonheur, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est le plaisir, mais qu'est-ce que c'est que le vrai plaisir qui donne du bonheur? Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la morale d'Épicure, mais là, justement, cette analyse, il classe les plaisirs en différentes catégories, il les appelle naturels et nécessaires, ni naturels ni nécessaires, naturel n'est pas nécessaire, nécessaire n'est pas naturel. Et finalement, il ne garde comme véritable plaisir qui donnera le bonheur, mais donc c'est le bien, que les plaisirs naturels et nécessaires. Vous voyez que l'analyse est très parallèle. Ce que le Maharal nous dit, c'est que il y a, du point de vue de ce que nous recevons comme mazon, premièrement, ce mazon qui est nécessaire de façon sine qua non, enfin de façon absolue, c'est le lechem. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, il n'y a pas de kiyum. C'est au niveau des plaisirs épicuriens qui sont dénommés les plaisirs naturels et nécessaires. Maintenant, d'autre part, il y a un mazon qu'on peut vivre sans lui, mais si on ne l'a pas, la vie n'est pas ce qu'elle serait. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple dans un autre domaine, mais je ne suis pas baki dans les hanaot. On peut vivre sans une maison de campagne, mais si on n'a pas une maison de campagne, ça manque. Il y a encore des terrains, s'il y a plus toi. Bon, c'est ce genre de choses. Bon, on va y arriver là. Alors ça, c'est le deuxième niveau. La Shmishi, chez Ishpia, chez Mitbarach, la Olam, de Varim, af, im lo haya ba'olam, lo haya olam chaser. Rak, chez Hashem Mitbarach, atov, mashpia, le adam, atov, agamour. Et un troisième degré, ce sont les choses que Dieu nous donne, même s'il ne nous les donnait pas, rien ne manquerait au monde, et cependant, il nous les donne quand même. Puis ce n'est pas le superflu, puisque c'est tov et. Le superflu ne peut pas être tov, parce qu'on ne jouit pas du superflu comme tov. Alors, à quoi correspondent, si vous vous souvenez du cours précédent, à quoi correspondent ces trois niveaux de définition par rapport à la citation de laquelle le Maharal était parti, le Midrash qui disait sur trois choses le monde repose, al shlosha devarim haolam omed, rappelez-vous, bisrut shlosha devarim haolam nivra, bisrut.
Bien.
Mais non, on n'est pas du tout là-dedans. Non, on n'est pas là-dedans. Vous avez les yeux sous les yeux. Okay. Vous dormez ou quoi? Je ne suis pas là bien qui va. Ma où vous êtes? Oula, quelle idée. Vous dormez ou quoi? Alors regarde au début du paragraphe. Khala, Maaser, Ebikurim. Alors, quel était le problème du Maharal? C'est que la Mishnah que nous étudions ne menace de catastrophe, de famine, qu'à cause du Maaser et de la Khala, elle ne parle pas des Bikurim. Vous vous rappelez? Or, la citation que le Maharal nous donne, c'est que c'est par le mérite de trois choses que le monde a été créé. La Khala, le Maaser et les Bikurim. Alors, le Maharal veut répondre dans son explication à la raison pour laquelle le fait qu'on ne donne pas les Bikurim, ça ne mène pas le Rav. Mais le fait qu'on ne donne pas le Maaser et qu'on ne donne pas la Khala, ça mène le Rav. Alors faites la correspondance entre ces trois niveaux et les trois niveaux tels que je viens de les expliquer. Le Lechem, qui est indispensable, au Kiyum, ça correspond à Khala. Le Maaser, correspond, non, le Maaser correspond au deuxième niveau que l'on peut vivre sans, mais que si on n'a pas, on est rassé. Et le troisième niveau correspond au Bikurim. Je vais vous l'expliquer. Je vais d'abord vous relire la Mishnah pour vous la mettre en tête, et on finira ce paragraphe aussi. La Mishnah dit ceci. Shiva miné pour Aniyot Maïna Olam, premièrement. Ashiva Gurgad Avera. Miksatan Maaserin, Miksatan Inan Maaserin, Rav Shebatoret Ba. Miksatan Raevin, Miksatan Serein. Gamru Shelole Aser, Rav Shel Mehuma, Shebatoret Ba. Beshelo Ito Le Tahala, Rav Shel Kilia Ba. Vous voyez? De destruction. Claire. Kilia. Vous voyez la différence qu'il y a entre. Le fait de ne pas donner la khala, c'est au niveau du lechem. Alors la punition est la plus grande. Le fait de ne pas donner le maraser, il y a des madrigaux. Oui. Et des bikurim, on ne parle pas. Même si on ne donne pas les bikurim, il n'y a pas de catastrophe. Alors nous allons lire maintenant l'explication du Maharal, et on aura achevé le Maharal. Alors prenez le texte. Vohem shalosh madrigot. Ha'echad hu mukhlach shehu chiyuto shel ha'adam. Ha'sheni שיחיה בלא חסכון. השלישי, שיהיה בטובה ובהנאה. וכנגד זה הם שלושה דברים. חלה, מעשר וביקורים. החלה היא חיותו של האדם. ואם ניתן חלה, השם יתברך נותן ומשביע לעולם דברים הכרחיים. ואם ניתן מעשר, אשר המעשר הוא בפירות. ואין חיותו של האדם תלוי בפירות, גם אי אפשר שיהיה מתפרנס כל ימיו בפירות. רק שהם השלמת העולם, שאם לא היו פירות ויין, אין ספק שיהיה וחסכון. C'est clair ou je traduis? C'est-à-dire, le maaser porte sur les fruits, vous rappelez essentiellement Dagan, Yitzhar, Tirosh et Yitzhar, et en fait sur les sept fruits qui définissent Israël, alors et on peut vivre sans manger ces fruits, et sans boire le vin du yain, et sans avoir de l'huile du zaït. Mais il suffit de l'achem. Pardomelach, ou maïm ba mesoura, voïd arkashel Torah. Avec du pain et du sel, vous voyez, du pain et du sel, pas de bamelach, et un peu d'eau, on peut être mitkayem.
Ils sont oubliés au prélève, ma soeur.
Oui. Mais la différence entre manger des graines blé grillées et manger du pain est très grande. Hein? C'est-à-dire si. On ne mange pas du blé. Du blé, c'est un dessert. Enfin, un hors-d'œuvre, comme vous voulez. On prend l'apéritif avec. Mais le pain, c'est ma chéo à faire. Et par exemple, avec du blé, on fait des maisonnotes. On peut vivre sans maisonnotes. Enfin, sans gâteau. La notion de maison ne va pas ici, mais on peut vivre sans rougote, si vous voulez. On ne peut pas vivre sans pain. Et alors, ce qui nous explique, c'est que le maaser, c'est important, que de telle sorte que le Olam soit malé de Shefar. Mais ce n'est pas chiyuto chez l'Adam. Vous voyez la différence? Vechasher ben Adam notnim ze, raoui sheye mashpia Hashem yitvarach la'olam, gam ken devarim shem hashlamat ha'chitchon. Omnam, ha'bikurim, mipene she'en shiur la'bikurim, rak shederech ha'adam shemitave biyoter el peri, ka'asher ha'peri hu bebikur, shelo, ve'adam nehene mimenu, ve'en ze rak bishvil hana'a ve'tova, ve'lo le'ashtim chitchon. On peut vivre sans avoir mangé des primeurs. Pour expliquer ce que ça veut dire ici, les prémices. Ça veut dire, bien sûr, si on n'a pas de petit poids, le repas n'est pas Béashlama. Mais ce n'est pas nécessaire que le petit poids soit le bikurim. Voilà ce qu'il veut dire. Ulfichach, kasher adam ashpiar la'acher, midabar shiwana vetova yetira bilbat, raou shi ashpiar ashem idbarach le'olam, gamken tuvotav, afalgav shiim lo hayaze ba'olam, lo haya olam haser klav. Rak shem le tovat yetera. Et puisqu'il ne s'agit que de tova yetera, si on ne donne pas les bikurim, ça ne déclenche pas le ra'av. C'est clair? Donc, Maharal a répondu à la question qu'il avait déjà posée tout à l'heure, enfin, il y a trois cours, c'est-à-dire pourquoi on a cité dans la Mishnah la chala et le maaser, alors que le Midrash a enseigné qu'il y a trois choses en vue desquelles le monde a été créé. C'est Chala, Maaser et Bikurim, et pourquoi la Trouma, qui est elle aussi appelée Réchit, le fait de ne pas donner la Trouma, Bikurim, ne déclenche pas le Rahav. Bon, alors on a fini le paragraphe, on prendra le paragraphe suivant la prochaine fois, mais je vais quand même vous demander, si vous voulez, de préparer le texte, qu'on puisse aller un peu plus vite sur...